Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Comme c'est l'usage pour les vacances de printemps, eh bien je vous propose de découvrir, voire redécouvrir, des titres qui ont fortement marqué le début des années 70. Et pour commencer, ce sera avec un titre de Cat Stevens qui fut fameux et qui a laissé, je pense, de très bons souvenirs à beaucoup d'entre nous. En effet, Lady Darbinville, qui est une chanson écrite et enregistrée par Cat Stevens, fut publiée en 45 tours en avril 1970. Elle parut aussi sur son troisième album, Mona Bun Jacken, publié aussi cette année-là. Lady Darbinville prenait une direction très différente de celle de ses deux albums précédents. Malgré leur succès, Cat Stevens a changé l'orchestration lourde pour un genre plus folk-rock. À l'époque, Cat Stevens venait de passer un an à l'hôpital pour une tuberculose et un collapsus pulmonaire. Il passa son temps à écrire plus de 40 chansons et réussit à négocier son contrat avec Durham. Il choisit Paul Samuel Smith, un ancien des Yardbirds, d'Island Records, comme nouveau producteur, ce qui encouragea les penchants de Stevens pour un genre émergent de folk rock. Alors que Cat Stevens était en fin de convalescence, il a assisté à une fête où se trouvaient Jimmy Page, Steve Winwood, Ginger Baker, Eric Clapton et d'autres stars de l'époque. Et là, il y rencontra Patti Darbinville, une adolescente américaine qui poursuivait une carrière de mannequin, sa carrière d'actrice démarrait également, et les deux ont commencé à se fréquenter. Patti restait avec lui chaque fois qu'elle était à Londres, mais sa carrière l'amenait souvent à Paris et à New York. Cat Stevens était prêt à s'engager davantage dans sa relation avec elle, alors que l'ambitieuse petite amie, elle, hésitait. Et c'est lors d'un séjour à New York qu'elle entendit la chanson qui parlait d'elle. Sa réaction fut triste, car les paroles semblaient dire que lorsqu'elle était loin, son amant l'imaginait mort. C'est à ce moment-là qu'elle sut qu'elle devait quitter Cat Stevens.
My Lady Darbinville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Darbinville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady Darbinville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Darbinville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady Darbinville,
do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. My lady Dabanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
C'était My Lady d'Abbeville par Cass Stevens sur Roxy Web Radio.
She was a gypsy woman.
Le morceau suivant, lui, est dans un autre registre. Il concerne Curtis Lee Mayfield, né en juin 1942, est décédé malheureusement en décembre 1999. C'était un auteur, compositeur, interprète, guitariste et producteur de disques américains. Et l'un des musiciens les plus influents derrière la musique afro-américaine soul et politiquement consciente. Il a d'abord connu le succès et la reconnaissance avec le groupe The Impressions au cours du mouvement des droits civiques de la fin des années 50 et 60 aux États-Unis. Plus tard, il a travaillé comme artiste solo. Né à Chicago, dans l'Illinois, Curtis Mayfield a commencé sa carrière musicale dans une chorale de gospel. S'installant dans la partie nord, il rencontre Jerry Butler en 1956 à l'âge de 14 ans et rejoint le groupe vocal The Impressions. En tant qu'auteur-compositeur, Curtis Mayfield est devenu l'un des premiers musiciens à intégrer des thèmes plus répandus de sensibilisation à la société dans la musique soul. En 1965, il écrivit « People Get Ready » pour The Impressions et ce morceau, je pense, doit frapper les fans de Jeff Beck et Rod Stewart. Après avoir quitté les Impressions en 1970 à la recherche d'une carrière solo, Curtis Mayfield a publié la bande originale du film « Superfly » en 1972. Cette bande-son était connue pour ses thèmes de conscience sociale abordant principalement les problèmes des minorités du centre-ville tels que le crime, la pauvreté et la toxicomanie. Les paroles célèbrent la ruse et la détermination du personnage principal du film Superfly. La musique est reconnaissable pour la ligne de basse de Joseph Lucky Scott et la percussion de Master Andy Gibson. L'album a été classé au numéro 72 sur la liste des 500 plus grands albums de Rolling Stone. Curtis Mayfield a reçu de nombreuses récompenses et il fut intronisé dans le Hall of Fame du rock'n'roll en tant que membre du groupe The Impressions en 91 et en tant qu'artiste solo en 1999. Il est décédé des complications du diabète en 1999 à l'âge de 57 ans. Voici Superfly.
A set going strong, a lot of things. a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune, bye bye. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets.
C'était Superfly par Curtis Mayfield sur Roxy Web Radio.
Here we go. It's a thing called Black Knight. Get on now.
La chanson suivante, Black Knight, est une chanson du groupe de hard rock Deep Purple, sortie en tant que single en juin 1970, puis inclus dans la version du 25e anniversaire de leur album de 1970, In Rock. La chanson est devenue un hit dès sa sortie, culminant à la deuxième place des charts britanniques et reste à ce jour le meilleur single britannique de Deep Purple. En tête des charts, en Suisse, il s'agit de l'un des deux singles du groupe à se classer en Irlande, culminant à la quatrième place du classement, devenant ainsi le seul hit irlandais du top 10 du groupe. Une fois In Rock terminé, EMI a demandé qu'un single approprié soit enregistré pour aider à promouvoir l'album. Bien que Roger Glover déclare que l'arrangement de Ricky Nelson datant de 1962 de la chanson Summertime de George Gershwin fut à la base du single Black Knight, il est également similaire à la chanson de rock psychédélique à succès We Ain't Got Nothing Yet de Blues Magoose en 1966. Dans le documentaire Heavy Metal Britannia de la BBC, John Lord soutient la déclaration de Roger Glover sur l'origine de la chanson, déclarant que Black Knight a bien été piqué sur la ligne de basse de Summertime de Ricky Nelson. Black Knight a fait son entrée dans la setlist peu après sa sortie, et généralement comme le premier appel du groupe sur scène. La chanson n'a pas été jouée intégralement après le départ de Ian Gillan, le chanteur, et de Roger Glover, le bassiste, en 1973. Mais des extraits ont souvent été joués par Ritchie Blackmore dans le cadre de ses improvisations. Lors de la reformation de Deep Purple en 1984, Black Knight est revenu dans la liste principale sur scène et il existe de nombreuses versions de la chanson disponibles sur les albums live de Deep Purple. Voici donc Black Knight. C'était Black Knight par Deep Purple sur Oxy Web Radio. La chanson suivante a été rendue célèbre par Joël Daïdé, né à Paris en mars 1947, qui évoluait entre le rock et la variété française et qui était doté d'une voix forte, très blues, et il a souvent été comparé comme le Joe Cocker ou le Roger Chapman français. Après une scolarité sans histoire, Joël Daïdé apprend seul la guitare, puis participe à divers groupes, les Polaris, les Safaris, les Tombes et Baltus, avant d'intégrer la question qui prendra le nom de Zoo en 1969 et dont je vous ai récemment parlé. Après un passage au festival d'Amugis et la sortie d'un album intitulé Zoo, Joël quitte le groupe en 1970. En février 1971, il sort son premier album intitulé « J'aime », enregistré notamment avec Claude Angel, un célèbre guitariste français des années 70. Malgré de bonnes critiques dans la presse spécialisée, le disque ne décolle pas, ainsi que le 45 tours qui en est issu. Son second 45 tours comprend une reprise de « Paperback Writer » des Beatles, et le magazine Extra lui consacre 2 pages où il annonce la sortie d'un 45 tours pour la rentrée 71. Et ce 45 tours, ce sera Mambu Blue. C'est son 3e 45 tours, dont le chant et l'arrangement sont assurés par Joël, et cette version originale devient le tube international de l'été 71. Joël Daïdé reste premier au top 10 durant 4 semaines. Mamie Blue est une chanson composée et écrite par Hubert Giraud en 1970, alors qu'il était en voiture, coincé dans un embouteillage à Paris. La toute première version a été enregistrée en italien par Ivana Spagna, début 71, il convenait de le rappeler. Puis le chanteur Phil Trim du groupe espagnol Pop Tops modifie et adapte la chanson en anglais. Aussi, le label Barclay se dépêche alors d'enregistrer la version mise au point par Phil Trim, par Joël Daïdé, et d'ailleurs également une version en français sur la même musique sera réalisée par Nicoletta, toujours chez Barclay. Voici donc la version par Joël Daïdé. C'était Mamie Blue par Joël Daïdé sur Roxy Web Radio. Les Schools Out, on change de registre. Cette chanson, en 1972, était d'abord enregistrée pour être un single par Alice Cooper et finalement fit l'objet de son cinquième album et lui donna même le titre à cet album. Ce fut le premier succès d'Alice Cooper, qui est née en 1943 à Détroit. Il a marqué les esprits en assurant des shows empreints d'images d'horreur, mais en manipulant aussi l'humour. Sa carrière aura duré 50 ans, ce qui en fait un artiste à part, débonnaire et jovial hors de la scène, terrifiant et violent sur scène. personnellement, c'est un artiste un peu bizarre qui, pour moi, a marqué son entrée dans le show avec, justement, de grands spectacles sur scène. Pour Schools Out, Alice Cooper a déclaré avoir été inspiré en répondant à la question « Quelles sont les trois meilleures minutes de votre vie ?» À cela, Alice Cooper a déclaré « Il y a deux occasions dans l'année. » L'une est le matin de Noël, juste avant d'ouvrir tous les cadeaux, et l'autre, eh ben, c'est la fin de l'école. Et cela lui a inspiré les paroles qui veulent capturer finalement ces trois dernières minutes de l'école pour toute une vie. Pour la musique, dans son émission de radio Nice with Alice Cooper, il a fait croire que le riff était inspiré d'une chanson de Miles Davis, puis il a avoué que c'est le guitariste Glenn Buxton qui en fait a créé le riff. Les paroles de Schools Out indiquent que non seulement l'année scolaire est terminée, pour les vacances d'été, mais aussi pour toujours, et que l'école elle-même a été dynamitée. Les paroles incluent une cantine de l'enfance qui met en vedette des enfants contribuant à une partie des chœurs. Sur scène, les paroles ont souvent évolué pour dénigrer le temps de l'école, briseuse d'innocence et non faiseuse d'intelligence. Voici donc Schools Out d'Alice Cooper, qui au fait s'appelle au départ Vincent Damon Furnier, un nom bien français au demeurant. C'était Schools Out par Alice Cooper sur Oxy Web Radio.
she speaks like silence.
Autre changement de registre avec Knocking on Heaven's Door, qui est une chanson de Bob Dylan, écrite pour la bande originale du film de 1973, Pat Garrett et Billy the Kid. Sortie en single, elle atteint la 12e place du Billboard Hot 100 pour le single. Décrite par le biographe de Dylan, Clinton Ellen, comme un exercice d'une splendide simplicité. La chanson, compte tenu du nombre d'autres artistes qui l'ont reprise, est l'une des compositions les plus populaires de Bob Dylan après les années 60. Les membres des Western Writers of America, un peu un syndicat des écrivains américains, l'ont choisie comme l'une des 100 meilleures chansons occidentales de tous les temps. En janvier 1975, Eric Clapton a joué sur l'enregistrement de Knocking on Heaven's Door d'Arthur Louis, arrangé dans un style crossover reggae. Après les séances d'enregistrement avec donc Arthur Louis, Eric Clapton décide de s'enregistrer sa version, qui sort en single en août 75 et qui sera véritablement un succès. En 1987, même Guns N' Roses s'y met et a interprété la chanson en version live, qui est sortie sur un maxi single, The Welcome to the Jungle, la même année. Ils ont enregistré une version studio qui, elle, apparaîtra sur, également comme bande originale du film Days of Thunder. Cette version a été légèrement modifiée pour l'album Use Your Illusion 2, qui est sorti en 1991, écartant en particulier les réponses du deuxième couplet. Bref, voici une chanson comme le grand Bob Dylan sait les composer, sait les créer, et sait en même temps créer une sorte d'univers un peu particulier, notamment à l'époque des années 70, où il mêle toujours ses textes restés fameux, mais également des arrangements musicaux originaux. Frappons donc à la porte du paradis. C'était donc Knocking on Heaven's Door par Bob Dylan sur Oxy Web Radio. Hommage maintenant à ce superbe pianiste qui était William Everett Preston, plus connu sous le nom de Billy Preston, né en septembre 1946 et décédé en juin 2006. C'est un musicien américain dont le travail concernait le rhythm and blues, le rock, la soul, le funk et le gospel. Billy Preston était un claviériste de premier plan dans les années 60, au cours desquels il a soutenu des artistes tels que Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, le révérend James Cleveland et les Beatles, rien que ça. Il a ensuite acquis une renommée en tant qu'artiste solo avec des tubes tels que That's the way God planned it, Will it go round in circles et celui d'aujourd'hui, Nothing for Nothing. De plus, Billy Preston a coécrit You Are So Beautiful que nous venons d'entendre, qui est devenu un hit numéro 5 pour Joe Cocker. Billy Preston, avec Tony Sheridan, George Martin et Pete Best, étaient les seuls musiciens crédités sur un enregistrement des Beatles, autre que les quatre membres du groupe. Billy Preston continua d'enregistrer et de jouer avec d'autres artistes, notamment George Harrison, après la séparation des Beatles, et Eric Clapton. Il joua des claviers pour les Rolling Stones sur de nombreux albums et tournées du groupe dans les années 70. La chanson d'aujourd'hui, Nothing for Nothing, a été écrite par Billy Preston et Bruce Fisher et enregistrée pour son album de 1974, The Kid and Me. La chanson atteignit la première place du classement Billboard Hot 100 pendant une semaine en octobre 1974, devenant ainsi le deuxième titre du palmarès solo de Billy Preston aux États-Unis. Il a passé 4 mois et demi dans le chart, ce qui n'est pas rien aux États-Unis. Billy Preston a interprété Nothing for Nothing plus tard dans Saturday Night Live, le premier spectacle musical jamais présenté. Nothing for Nothing par Billy Preston sur Roxy Web Radio. Et voici Mountain, groupe de hard rock américain formé à Long Island, à New York, en 1969. Composé à l'origine du chanteur et guitariste Leslie West, du bassiste et chanteur Felix Pappalardi, du claviériste Zeke Knight et du batteur Randy Smart. Le groupe s'est séparé en 1972 et s'est fréquemment réuni depuis 1973 pour rester actif jusqu'en novembre 2009. Leur chanson, la plus connue, est Mississippi Queen, que nous allons entendre, ainsi que pour leur prestation au festival de Woodstock. Fin 69, Mountain est l'un des nouveaux groupes de heavy metal. Le style musical du groupe se composait principalement de hard rock, de blues rock et de heavy metal. Et je vous reparlerai un jour de Leslie West dans un autre groupe pas très connu, mais qui a fait un fabuleux album. Peu de temps après Woodstock, le Canadien Lawrence Kirkilang intégra le groupe pour l'album Climbing, qui est sorti en mars 70. Il contient ce fameux Mimi Six Queen, qui a atteint la 21e place du Billboard Hot 100 et qui a été présenté dans le film culte de 1971, Vanishing Point, tandis que l'album a atteint la 17e place du top 200 des Billboard. Selon Kirkilang, donc le batteur, c'est lui qui avait créé une partie des paroles en plus de la partie de batterie avant de rejoindre le groupe. Pour la session, Leslie West cherchait les paroles pour une chanson qu'il avait esquissée et Corky lui proposa la sienne. Les deux ont élaboré et finalisé la chanson ensemble, qui devint donc Mississippi Queen. Félix Pappalardi et son parolier David Ra ont également été crédités. Quand le groupe l'a enregistré, Félix Pappalardi a insisté pour faire de nombreuses prises. Fatigué de ses multiples prises, Kirkilang commença à utiliser la cloche pour compter les versions de la chanson. Et Félix l'a tellement aimé qu'il a gardé la cloche, créant l'intro reconnaissable de la chanson. Mississippi Queen par le groupe Mountain sur Oxy Web Radio. Papa Was a Rolling Stone est une chanson interprétée au départ par The Undisputed Truth de la Motown en 1971. En fait, elle a été écrite par Norman Whitfield et Barrett Roth en 1971, sortie en single en mai 72. Avec eux, cette chanson a atteint la 63e place des charts pop et la 24e place des charts de rhythm and blues. La chanson était incluse dans l'album Law of the Land, sorti en 1973 de ce groupe. Leur version est aujourd'hui, il faut l'avouer, complètement oubliée. Car plus tard, cette année-là, Norman Whitfield, qui a également produit la chanson, a pris Papa, qui est une pierre roulante, et l'a refait en un enregistrement de 12 minutes qu'il avait préparé pour la proposer aux Temptations, qui devint avec eux l'un des tubes les plus vendus du Billboard Hot 100 et a remporté 3 Grammy Awards, rien que ça, en 1973. La chanson est un classique durable et influent de la soul, il faut l'avouer. Elle a été donc classée 168e sur la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps pour le magazine Rolling Stone. The Temptations est un groupe vocal américain qui a publié une série de singles et d'albums à succès avec Motown Records au cours des années 60 et 70. Composé en général de 5 chanteurs et de danseurs, le groupe s'est formé en 1960 à Détroit, dans le Michigan, sous le nom de The Heavy Elgins. Les membres fondateurs venaient de 2 groupes vocaux rivaux de Détroit, Otis Williams and the Distance et The Primes. Et en fait, l'effectif fut souvent renouvelé. Et c'est la fusion des deux qui a constitué The Temptations. Depuis 2018, The Temptations continue de jouer avec leur fondateur, Otis Williams, en est le leader. En effet, il détient tous les droits sur le nom The Temptations. Voici donc Papa Was a Rolling Stone.
It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Papa never watched a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said,
chasing women and drinking.
Mama, I'm depending on you
mama looked up with a tear in her eye and said, son,
Papa was a rolling stone.
Et Papa Was a Rolling Stone par The Temptations sur Roxy Web Radio. Pour finir, je voudrais rendre un hommage à un fabuleux batteur, Cozy Powell, né Colin Trevor Flux, qui était un batteur de rock anglais qui s'est fait connaître au sein de nombreux groupes et auprès d'artistes majeurs. Cozy Powell est né à Cirencester en décembre 1947, près de Gloucester. Et c'est un enfant adopté, il n'a jamais connu ses parents biologiques. Il a commencé à jouer de la batterie très tôt, à 12 ans, dans l'orchestre de l'école. Puis il est devenu semi-professionnel avec un groupe, The Sorcerers, qui se produisait la nuit. Et lui, Cozy Powell, travaillait le jour pour pouvoir se payer son premier ensemble de batterie, de marque premier, et pouvoir jouer ainsi avec eux. Ils sont passés par des clubs allemands, un peu comme l'ont fait les Beatles et les Tennisateurs, puis ils sont rentrés en Angleterre. Et là, Cozy Powell a fait la connaissance de Robert Plant, de John Bonham, les futurs Led Zeppelin, pas encore connus, le futur chanteur de Slay, Noddy Holder, et un jeune guitariste inconnu, Tony Iommi, le futur Black Sabbath. Il a rejoint Jeff Beck et il a fait deux albums avec lui, Rough and Ready, et aussi celui intitulé Jeff Beck Group. En 1972, il a rejoint les frères Ball, et c'est là avec eux qu'il a enregistré Dance with the Devil, qui a été un succès en Angleterre et surtout aux États-Unis. Et pour la petite histoire, c'est Susie Quattro qui jouait de la basse. Au bilan, Cozy Powell a joué avec Jeff Beck, Rainbow de Richie Blackmore, c'est là que j'ai connu, Gary Moore, Robert Plant et Brian May. Brian May de Queen, Whitesnake, Emerson, Lake & Powell et Black Sabbath. Cozy Powell est apparu dans près de 66 albums et de nombreux amateurs de rock le citent comme une influence majeure. Malheureusement, en avril 1998, Cozy Powell s'est tué dans un accident de voiture en allant de nuit rejoindre sa maîtresse qu'il appelait au secours. C'est une destinée vraiment triste pour un super batteur que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas avec son fameux tube « Dance with the Devil ». Danse avec le démon. C'était Dance with the Devil avec Cozy Powell sur Radio Côte Sud FM. C'est ainsi que se termine l'émission consacrée aux grands tubes du début des années 70. Je vous souhaite d'excellentes vacances de printemps. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de Neil Young et de son fabuleux album intitulé Harvest, paru en 1972. Mais d'ici là, roulez blues!